Voilà. Oui, ça va. Alors, la caméra passe.
What is this, Connor?
Easy, easy, old man. She's not hurt?
No. No wounded, sir.
Aggredisci.
Ma sta tutto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conosci?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che dici? Come fa che dici?
Bonjour à toutes et à tous, cinéphiles. Bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité ou l'inactualité du cinéma en Sud-Ardèche. Au menu de ce Cinémascope, cinéma et intrigue policière, ou cinéma et grande cuisine, voire cinéma, intrigue policière et grande cuisine, et sensualité liée au goût, aux odeurs. Tout cela en compagnie d'Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et d'Olivier. Bonjour Olivier.
Bonjour tout le monde.
Et salut Olivier aussi, également autour de cette table. Et derrière la technique, Sylvain. Salut Sylvain.
Bonjour tout le monde.
Mais oui. Bonjour. On va parler des films. On va parler de La Réparation de Régis Vernier. Et puis des Diaboliques aussi qui. Alors, Ne passe plus, mais tu voulais en reparler. Qui un film qui a 70 ans et qui est repassé dans le cadre de Cinéma et Patrimoine, ou je sais pas, le patrimoine. Escale Patrimoine.
Escale Patrimoine,
voilà.
Ouais.
On va en dire plus qu'un mot, puisque nous allons en parler longuement. Mais avant, on part pour.
Taïwan.
Taïwan, merci.
Il y a deux règles en cuisine à savoir: l'inspiration, l'audace.
Salut papa.
Antoine, une étoile, tu sais à quoi ça tient?
À ça.
À tout.
T'es belle.
À rien.
J'ai envie de me barrer.
Fais pas ça.
Pascal Jankowski s'est volatilisé avec son second Antoine Desmartins.
Tout ce qui est arrivé, c'est à cause de moi.
C'est une telle souffrance.
C'est mieux pour tout le monde si tu t'arrêtes.
J'ai reçu une invitation pour la foire de la gastronomie, à Taipei.
Et t'en déduis que ce message pourrait venir de...
d'Antoine. Et mon père.
Ah, un mystère.
Oui, très bien résumé par la bande-annonce, je trouve.
La Réparation de Régis Vernier avec Julia de Nunez, qu'on a entendu, Clovis Cornillac et Julien de Saint-Jean.
Oui.
Que penses-tu de ce film, Olivier ?
C'est un film qui fait un bon travail, je trouve, de narration, globalement. C'est un film qui nous fait découvrir, redécouvrir, c'est pas le premier film, hein, le monde de la cuisine dite de haut niveau, quoi, de la cuisine dite grande, puisque le chef Jankowicz, dont il est question, attend la troisième étoile Michelin. Ça le met quand même tout en haut de la gastronomie française, dit-on, bien sûr. Il a une super équipe, donc on voit la brigade au travail, on voit celui qui pourrait devenir son futur gendre, au travail avec lui, et on voit sa fille au travail avec lui, parce qu'il l'a initié très jeune au goût et à la cuisine. Et donc, c'est un film qui, du point de vue narratif, est intéressant, parce qu'il y a effectivement un point de départ étonnant. Le chef et celui qui pourrait devenir son gendre disparaissent au cours d'une partie de chasse. Ils disparaissent et le spectateur n'en sait pas plus, non plus, pendant un bon moment. Et par conséquent, le spectateur est dans l'expectative, ce qui est quand même un petit peu le but du jeu. Et effectivement, nous fait dire qu'il ne faut pas en dire plus que ce qui est dit dans la bande-annonce.
Eh bien, n'en disons pas plus.
C'est mieux. Alors, avec un seul bémol, c'est que la fin, à mon avis, est comme si elle n'était pas assez bien travaillée. Et on part avec plusieurs pistes comme ça qui s'en vont au loin. D'ailleurs, le plan, oui, c'est ça. Le plan final, c'est le chef taïwanais et la fille du chef français qui sont derrière une fenêtre. Ils sont à l'intérieur, ils regardent dehors. On les voit regarder et la pluie ruisselle sur les vitres. Donc, on a un peu ce même flou qui détonne par rapport à ce qu'on attend d'habitude d'une intrigue policière où on attend quand même un dénouement, ouais, une résolution, voilà.
Oui, c'est l'un des principes d'une intrigue policière, mais peut-être donc ce film s'inscrit pas dans ce type de film.
On peut le penser, oui, et que c'est plutôt un film qui nous invite à réfléchir à la cuisine, au goût, comme tu le disais en introduction. Quoi.
Alors, et de ce côté-là, est-ce que ce film arrive à représenter toute la sensualité liée à ces... justement, aux odeurs, au goût, est-ce qu'il y a...
Oui, je crois qu'il y arrive en partie, mais que d'un autre côté, il n'évite pas un certain nombre de poncifs. Donc, si vous voulez, il est évident que le goût et l'odeur, c'est extrêmement difficile à représenter au cinéma, ça va de soi. Ça l'est aussi en littérature. Mmh. Hein, là, il y aurait des parallèles à mener intéressants. Et pour faire sentir ou pour faire goûter à l'image, il faut filmer ces moments de suspension, ces moments d'attente où on regarde le visage des acteurs, voir l'effet que ça leur fait, de dégoût, de plaisir, etc. On attend aussi de voir, puisque comme on n'arrive pas à objectiver, à réifier le goût et l'odeur à l'extérieur de nous, il faut donc le représenter d'une autre manière. Et une manière de le représenter, de l'objectiver, c'est de le partager. Donc on assiste dans ces films qui parlent du goût et de l'odeur, mais ici, bon, du goût, des saveurs, on assiste à ces moments de partage autour d'une épice, autour d'un plat, et c'est bien fait dans la réparation, je pense que c'est bien fait, mais on a l'impression de revoir des choses qu'on a vues dans le Festin de Babette, par exemple, dans The Lunchbox, je ne sais pas si les auditeurs se souviennent de ce film.
En 2013.
C'est ça, ça se passe à Bombay, et il y a des entreprises qui se chargent d'apporter des repas tout faits dans des coffrets cuisine. Et il y a un bug dans le système de distribution et un employé comptable d'une grosse entreprise reçoit régulièrement tous les jours des plats qui n'ont strictement rien à voir avec ce que fournit l'entreprise d'habitude. Donc pareil, point de départ d'une intrigue, on n'en dit pas plus. Et pareil, notion d'échange autour du goût. Hein, il décrit un petit peu ce qu'il mange, il s'interroge, voilà. Et donc, on a ces scènes un peu obligatoires. Je pense aussi à un film dont on avait parlé ici, La Passion de Dodin Bouffoin.
Oula, oui, c'était fin 2023.
C'est ça.
Tran Anh Nguyen.
Oui, c'est ça, tu prononces magnifiquement. Voilà. Moi, je l'avais écrit, je m'hésitais.
Tu avais fait l'odeur de la papaye verte.
C'est ça, voilà. Et ce film, adaptation
une
de
promesse,
la
promesse, l'odeur de la papaye verte, enfin, je veux dire, sur l'esthétique, sur la sensualité, c'était une promesse. Mais me semble-t-il que La Passion d'Odin Bouffant, c'était pas...
C'était un cran au-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, c'était un film adapté d'un roman de Marcel Rouff, La vie et la passion de Dodin Bouffant, gourmet. Et le livre était... plus riche, creuser d'autres aspects de l'intrigue, comme la relation que donc Benoît Magimel entretient avec Juliette Biloche dans le film. Elle était beaucoup plus complexe dans le livre. Donc le film était déjà un petit peu
ramassé
de ce point de vue-là, mais par contre plutôt boursouflé du point de vue de l'image, où on avait des décors, des accessoires qui débordaient de l'écran pendant deux heures. Ça faisait peinture hollandaise, un petit peu baroque, mais bon, disons qu'au bout d'un moment, on est un petit peu gavé, c'est le cas de le dire. La recette du pot-au-feu, d'ailleurs, de Dodin Bouffant dans le film, on dit assez long, et on retrouvait d'ailleurs les mêmes scènes, puisqu'il initie une jeune fille à la cuisine, comme le chef de la réparation initie sa fille à la cuisine, en lui faisant goûter, en lui faisant reconnaître. Le phénomène de reconnaissance. Tu fermes les yeux, je te donne ça à manger, est-ce que tu devines ce que c'est? Et donc voilà, on a ces scènes-là.
De partage, de transmission, toujours.
De transmission. Et puis un autre aspect, qui est, tu le soulignais, le fait que ces sens du goût et de l'odeur sont peut-être les sens, alors tous les sens sont sensuels par définition, mais ceux-là le sont particulièrement avec le toucher. Alors le toucher, la vue, l'ouïe au cinéma, ça passe très bien, puisque le toucher se voit la plupart du temps. Par contre, effectivement, l'odeur, le goût ne se voit pas, il faut les objectiver comme j'essayais de l'expliquer. Et puis, d'un autre côté, évidemment que le goût, l'odeur, c'est moins tributaire directement et essentiellement du cerveau. On sent que la moelle épinière et tout le corps sont immédiatement, comme par le toucher, concernés. Ça peut tourner pratiquement à l'érotisme, puisque un goût fort ou subtil nous fait pénétrer ou pénètre au plus profond de nous sensuellement. Et puis en même temps qu'on a cette intimité sensible, on a aussi l'intimité psychologique de la mémoire, parce que notre mémoire, elle se construit autour d'odeurs et de goûts.
Mais complètement, oui. L'olfaction est le seul sens qui est directement relié à l'hippocampe. Et qui ne va pas droit au cortex. C'est après que, effectivement, on décortique, on analyse, mais c'est d'abord lié aux émotions et à la mémoire.
La mémoire du goût et de l'odeur sont extrêmement, comme tu l'expliques, extrêmement profondes. Quand on voit qu'une œuvre aussi cérébrale que La Recherche du Temps Perdu part sur une biscotte ou une madeleine, selon les si vous avez lu ou pas, le trempé dans du thé ou de la fusion. Et puis l'autre démarreur de La Recherche du Temps Perdu, c'est trébucher contre un pavé mal calé dans une cour. Donc là aussi, on a vraiment des sensations qui sont très physiques, très équies, vont libérer la mémoire dans ses aspects les plus intellectuels, les plus idéalistes.
Mais on pourrait, parce que précisément, quand on parle de goût et d'odeur, on en vient toujours à faire des parallèles, notamment dans le vocabulaire, avec d'autres sens, notamment la vue.
Oui.
Enfin, on est très pauvre. Alors, est-ce que, justement, cinématographiquement, ça ne pourrait pas être la même chose, c'est-à-dire des analogies visuelles, c'est-à-dire retranscrire de manière visuelle ou auditive le goût et l'odeur?
En t'entendant parler, je pense à une scène que j'ai toujours beaucoup aimée, même si elle paraît un peu ludique comme ça, un peu bête, dans l'aile ou la cuisse. À un moment donné, donc Louis de Funès, qui est critique de gastronomique, il a perdu le goût, ce qui est évidemment pour lui une catastrophe. C'est son fils Coluche qui est chargé de le remplacer, etc. Mais il y a un show télévisuel où il faut qu'il fasse la preuve qu'il a conservé, etc. Et il détermine la nature d'un vin jusqu'à la date, enfin, etc. Rien qu'à l'œil. C'est-à-dire, il fait tourner le vin dans le verre, il le regarde, et puis il repère des dépôts, il repère des couleurs, etc. Bon, on sent bien ce que cet essai de faire sentir et goûter par la vue a de un petit peu vain quand même. Je crois que essayer trop de jouer ce jeu-là, c'est risquer de se perdre un petit peu dans des analogies, des métaphores dans lesquelles on se perdrait. Et je crois que le film La Réparation, hein, avec Clovis Cornillac, fait le maximum de ce qu'on peut faire en associant les goûts à des lieux. Par exemple, le chef, dont il est question dans le film, est connu pour tenter d'allier le terroir où il cuisine avec des saveurs exotiques. Alors, plutôt que de nous décrire les saveurs de terroir et les saveurs exotiques, on commence dans le terroir, dans le restaurant qui est dans une bâtisse en pierre ancienne, enfin, etc. Et puis après, on va à Taïwan. Et à Taïwan même, on s'élève dans la montagne, on arrive à un endroit où dit le personnage principal, enfin celui qui est devenu le personnage principal pratiquement, il n'y a plus de réseau. Et là, on découvre des gens qui récoltent des plantes, qui les conditionnent pour en faire donc des condiments et des épices. Et on, c'est par ce biais-là qu'on comprend ce qui se passe dans la bouche, hein, et pas en tentant des métaphores poétiques plus ou moins réussies. Quoi.
Mais alors, c'est étonnant parce que quand tu parles de, justement, de la mémoire et de ces lieux, en fait, qui sont associés, on sait maintenant aussi, par les recherches, les dernières recherches en neurologie, que la mémoire est vraiment liée au lieu et qu'on mémorise par des lieux. Donc là aussi, c'est directement émotion, mémoire, goût. Oui. Et lieux sont, c'est une piste.
Oui, mais c'est la. Je crois même que c'est un peu la seule piste en philosophie. Bon, c'est la phénoménologie, c'est l'idée que avant d'aller aux idées, il faut aller au vécu du corps et aux perceptions globales. Et donc la phénoménologie s'inspire de la psychologie de la forme, c'est-à-dire on est en contact d'abord avec des ensembles et non pas avec des parties. Donc effectivement, c'est en se transportant complètement quelque part qu'on se rend mieux compte de ce qui se passe dans nos pensées.
Et est-ce que tu invites les spectatrices et spectateurs à se transporter à Ruyons et au Benat pour aller voir la réparation ?
Absolument.
Bon,
absolument.
Allez-y. La réparation de Régis Varnier et qui sera bientôt au Vence à partir du 10 mai, je pense. Tu as commencé à soulever, même plus que soulever aussi, l'intrigue policière aussi qui est présente dans la réparation. Eh ben, on parle de presque la quintessence du film à intrigue policière, Les Diaboliques.
Attention, écoutez.
Ce sera aujourd'hui ou jamais.
Et tu es sûr que ça laisse pas de traces?
Et le scandale, tu imagines le scandale?
Ça ne peut finir que d'une façon. Sans des monstres, Dieu n'aime pas les monstres.
Oh, j'ai la tête qui éclate, moi. Je vis une histoire de fou.
Ce n'est pas une histoire de fou, c'est une histoire diabolique.
Qui est là ?
Allô, allô ? Qui est là ? Répondez, nom de Dieu !
Ah non, je ne sais plus si s'appelle Antoine, on est en train de discuter. Donc, vous, là... La bande-annonce, alors je me demande qui a fait le montage, hein, parce qu'on entend des petits blancs quand même, hein, entre-temps. Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, on a entendu Simone Signoret, bien sûr, Vera Clouzot, Paul Meurice.
Charles Vanel.
Charles Vanel aussi.
Ah ouais.
Un film, on l'a dit tout à l'heure, de 1955, qui est reparu, qui a été rediffusé, reprojeté là, il y a quelques jours.
Restauré
également. Tu nous dévoiles un petit peu l'intrigue pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu.
Il faut voir quand même que l'originalité de ce film, j'ai pas souvenir d'avoir vu ça ailleurs, c'est qu'il n'y a pas de générique final. Il y a un plan fixe sur un carton où il est demandé aux spectateurs de ne pas dévoiler la fin du film. On peut pas faire plus clair. Et alors, voilà. Donc, ça dit tout de l'intrigue. Il est hors de question de dire quoi que ce soit. Parce qu'il faut que tout soit découvert au fur et à mesure par le spectateur ou éventuellement le lecteur. C'est un roman de Stanislas André Steman, un roman de 39, je crois, ou de... je sais plus. Enfin bon, c'est un roman très très peu antérieur à la, en fait, relativement à la réalisation du film. Donc, ne rien dire. Si ce n'est que on a un duo avec Vera Cruz et puis Romy Schneider.
Vera Clouzot,
bah oui, c'est son épouse.
Mais Vera Cruz, si tu veux, ça nous emmène ailleurs.
Oui, voilà, on, la mémoire profonde, comme elle s'arrange.
Quoi, c'est ça.
Ouais. Non, bah, donc un duo assez formidable, Paul Meurice, Charles Vanel, spéciale mention.
Juste l'intrigue du départ.
Ah ben, on est dans une institution scolaire. On est dans une institution scolaire qui est dirigée par Vera Clouzot et Paul Meurice. Et mais voilà, que si je continue à parler, on voit le truc se mettre en place et notre imagination commence à flamber, etc. Romy Schneider est enseignante dans cette institution.
Romy Schneider.
Qu'est-ce que j'ai dit? Romy Schneider. Ouais. Simone Signoret, mais naturellement.
Oui. Et tu associes les deux. Étrange.
Gratuitement. Ouais. J'ai fait ça gratos, comme ça. Je me suis dit, tiens.
Allongez-vous, Olivier. Nous allons alors. Parlez-nous de Romy Schneider et de Simone Signoret.
Oui. Non, on va éviter.
D'accord.
Et deux grandes actrices, en tout cas.
Bah oui.
Voilà, on peut dire ça. C'est une association. Ma mémoire s'en sort bien avec ce coup-là. Et oui, donc, une intrigue se met en place. Alors, pour le coup, en plus, très rapidement. C'est-à-dire, il suffit pas. Si on en dit un tout petit peu plus, on dévoile déjà. C'est un peu le principe. Il faut aller voir, sachant que c'est une intrigue, alors là, pour le coup, extrêmement bien faite. C'est de l'horlogerie. Issu un peu de ce qu'on considère souvent un peu comme de la sous-littérature, un petit peu à la manière de Georges Clouzot, qui va aller chercher chez Georges Arnaud Le salaire de la peur, par exemple, ou bien je pense à des adaptations de Simenon. Et en fait, on se rend compte que ce qui est souvent considéré comme de la sous-littérature, c'est pas tant que ça de la sous-littérature.
C'en est même la substance, c'est même la substance de la littérature, avec une intrigue et toutes les noirceurs humaines.
Oui, des personnages. Ouais, je me suis amusé, parce que je réfléchis sur le récit, l'intrigue en ce moment. Je me suis amusé hier à lire deux fois de suite une courte nouvelle de Simenon, Rue Pigalle. C'est une intrigue qui prend la totalité de l'ouvrage. C'est 10 pages. En 10 pages, il vous raconte une enquête qui est en même temps une histoire qui se déroule dans le Paris des années 40, 50. Et il y a tout en 10 pages. C'est cette espèce de... C'est pour ça que j'approuve quand tu parles de quintessence de la littérature. Parce que, évidemment, si on compare ces ouvrages aux grands romanciers du 19e, bon, le conte n'y est pas. Mais quelque part, on a peut-être l'essence, justement. Et c'est justement intéressant. Et avec la transposition au cinéma... Alors, ce film-là, quand vous le voyez... La première impression, c'est celle qu'on a eue en écoutant la bande-annonce. Et puis, quand tu le dis, ce film a 70 ans. Bon, ça fait quelques années quand même. Hein. Et on se dit... Et quand le film démarre, tout à fait honnêtement, ces 70 ans écoulés depuis la réalisation du film, on les sent, quoi. C'est-à-dire qu'on sent que ça sonne un peu creux et qu'on est dans un autre monde. Je veux dire, nous, on est à l'époque de l'intelligence artificielle. Eux, c'est des téléphones dans lesquels il faut charger l'électricité à la main avant de pouvoir contacter l'opératrice. On est dans un tout à fait un autre monde. Et dans les premières minutes de visionnement, ça joue négativement. Et en fait... Et ma surprise, quand tu parles de 70 ans, en est le témoignage. Au bout d'un moment, on se surprend à partir dans cette intrigue, à être absorbé complètement par l'histoire. À un point, ça va loin. C'est-à-dire que quand vous sortez de ce film qui s'intitule donc Les Diaboliques, vous avez vraiment l'impression d'avoir côtoyé quelque chose qui ressemble de très près au mal en personne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose d'assez fabuleux de ce point de vue-là. Donc de la construction de l'intrigue et de la charge émotive dont elle peut se trouver pourvue à un moment donné. Et qu'on ne trouve pas forcément justement dans la réparation. Hein, on a pas comme si on n'avait pas tout ce métier-là qui permet d'embarquer... le spectateur ou le lecteur antérieurement.
Deux métiers. Alors les auditrices, auditeurs ne voient pas, mais tu faisais des petits signes avec tes mains. Effectivement, il y a quelque chose de très mécanique qui s'emboîte. C'est vraiment de la précision, de l'orfèvrerie, quoi.
Oui, depuis la poétique, c'est pas récent, la réflexion sur ce qui se passe dans un récit. C'est Aristote, donc... C'est 4e siècle avant Jésus-Christ, quand même. Il écrit la poétique.
Encore plus loin que Clouzot. Ah oui. 1955.
Ah oui, 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 là, là. Et pareil. C'est,
non, c'est, je, en effet.
Oui, ça fait un peu plus de 2000 ans. Mais justement, mais ça m'amuse que, la remarque que tu fais, parce que c'est cette même sensation de dire, bon, je suis en train de sortir une vieillerie du patrimoine philosophique, etc. Et en fait, quand on lit la poétique d'Aristote, on se retrouve projeté tout près des analyses structurales du roman par Roland Barthes dans le degré zéro de l'écriture, par exemple. Donc c'est particulier. On a vraiment l'impression de toucher quelque part à l'esprit critique en soi, quoi, d'une certaine manière. Et Aristote dit des choses simples, et donc il s'intéresse à l'épopée, à la tragédie, à la comédie, aux dithyrambes, aux nomes, qui sont d'autres poèmes, voilà. Et concernant la tragédie, qui doit, elle, avoir donc une intrigue, il dit, il faut une histoire. Et cette histoire, pour qu'elle tienne la route, il faut... Alors, quand on est étudiant et qu'on étudie la poétique, on se dit franchement, autant de génie pour arriver à ça. Il dit, une histoire, il faut un début, un milieu et une fin. Ah bon, d'accord, oui. Mais quand on regarde un peu plus profondément, on s'aperçoit que quand Roland Barthes étudie le roman dans le degré zéro de l'écriture, à un moment donné, il dit exactement la même chose. Il suffit de qualifier un tout petit peu plus. Qu'est-ce qu'on attend d'un début ? Bah, qui pose un problème. Qu'est-ce qu'on attend d'un milieu ? Bah, qui se prennent en charge de ce problème. Puis qu'est-ce qu'on attend de la femme ? Ce que tu disais, la résolution. Voilà. Bon. Et s'il n'y a pas ça, ça boite. Et donc, depuis Sophocle, on s'attache à avoir ces parties-là. Et là, dans les diaboliques de Clouzot, c'est absolument invraisemblable à quel point c'est réussi. Mmh.
Mais alors, ce que tu sembles soulever avec le lien que tu fais avec Aristote et la tragédie, c'est que ça vient chercher quelque chose presque d'universel. Enfin, je veux dire, avec justement cette tragédie, c'est peut-être aussi pour ça que tous, autant que nous sommes, nous lisons des livres policiers. Enfin, la plupart, enfin ceux qui lisent, sont quand même attirés aussi par les livres policiers, et puis par les films. Enfin, les films et séries. Quand tu m'as dit oui, j'aimerais bien faire quelque chose sur l'intrigue policière, je me suis dit mais en fait c'est toute l'histoire du cinéma.
Oui, complètement. C'est-à-dire que si on réfléchit à la nature psychologique du récit. Tout à l'heure, on a parlé de la nature psychologique des sensations. On a vu que selon les sensations, c'est pas les mêmes échos psychologiques et physiques qui retentissent. Les genres de textes, c'est pareil. Si vous faites une description, ça agite un certain nombre de neurones. Si vous faites un récit, ça en agite d'autres. Et nous avons, nous humains, un besoin profond de raconter. Et en particulier quand il nous arrivait quelque chose de très dramatique. C'est un enfant arrive vers vous en pleurant, il n'arrive pas à trouver les mots, il lui est arrivé quelque chose, il a perdu, il s'est blessé. Et la première chose que vous dites, c'est tenter de le calmer et de lui dire « Mais raconte-moi, dis-moi ce qui t'est arrivé ». Et en même temps que vous, ça vous renseigne, parce que c'est quand même un peu utile de savoir ce qui lui est arrivé, en même temps que ça vous renseigne et que ça vous renseigne efficacement, il est clair que psychologiquement, pour l'enfant et pour vous, le récit permet de prendre possession de l'événement, véritablement, et de ce qui vous a fait, et de ce qui va continuer de vous faire. Et donc, c'est pour ça que les peuples, et l'humanité tout entière, à des récits, on appelle ça des mythes, nous avons des récits fondateurs qui nous permettent de raconter ce que nous pensons qui nous est arrivé. Et là, effectivement, il arrive quelque chose dans la réparation. La diabolique, j'en parle pas, mais dans la réparation, puisqu'on l'a déjà dit, dans la réparation, donc le chef et son premier ouvrier disparaissent, problème. Raconte-nous ce qui s'est passé, on veut savoir. Et tout le film, c'est essayer de comprendre ce qui s'est passé et résoudre l'énigme. Et donc, le récit...
Donc, à moitié résolu, puisqu'il y a des gouttes sur la vitre.
Voilà, hein, voilà. Il se dissout dans l'eau, le mystère, en fait.
Bon. Eh ben, merci pour ces pistes, et puis ces pistes de réflexion. En fait, c'est énorme sur le cinéma, les représentations de la grande cuisine, des sens Et puis l'intrigue policière qui court partout, intrigue presque.
On avait dit, en deux secondes, là, que Clouseau avait aussi réalisé le Mystère Picasso, donc Mystère Picasso, où on voit Picasso peindre. Moi, j'invite les auditeurs à se procurer, il est à la médiathèque, le Mystère Picasso, où Clouseau filme Picasso en train de peindre. Et pendant tout le documentaire, on ne sait pas en vrai à quel moment Picasso va s'arrêter. Et donc, on ne sait pas pendant tout le temps du documentaire ce qu'il est en train de faire. C'est assez étonnant.
Puisque tu parles de Picasso, on peut aussi dire un mot de Frida Kahlo, puisque mardi à Lussas, à 14h30, il y aura la projection de Hola Frida. C'est simplement pour terminer, puisque tu l'avais vu. Je te fais justement la mémoire. Travaillons la mémoire, les émotions. Oui, oui, qu'as-tu ressenti? Étais-tu dans une salle de cinéma?
J'ai mon carnet sous les yeux, ouvert à la page Frida Kahlo, mais j'écris tellement mal que j'arrive pas à me relire. Donc, la mémoire, donc justement, c'est que ce film permettait très bien de se rendre compte de la manière, ça raconte, encore une fois, la manière dont l'univers esthétique de Frida Kahlo s'est élaboré. Et c'est bien porté à l'image. C'est-à-dire, quand on voit les aventures de cette petite fille qui sera la Frida Kahlo qu'on connaît, quand on la voit suivre sa mère ou son père fait de la photo, sa mère est issue d'une minorité ethnique du Mexique, elle fait rencontrer à sa fille les formes et les couleurs traditionnelles de cette ethnie dont elle est originaire. Donc tout ça fait que l'on voit comment l'univers esthétique de Frida Kahlo se construit dès le plus jeune âge. Dans son père lui fait par exemple colorier les photos noir et blanc. Donc c'est ce qu'il fait. On voit vraiment, mais on touche du doigt, c'est le cas de le dire, la manière dont l'univers de Frida Kahlo s'est constitué. C'est chouette. Ouais.
Une chouette manière de représenter justement ces différentes expériences esthétiques. Merci beaucoup. Donc c'est Hola Frida à Lussas, mardi à 14h30. Bah, pour le reste, allez au cinéma ou allez flâner, il fait beau. Merci Olivier.
Merci Sophie.
On se retrouve, alors la semaine prochaine, non, il n'y a pas de Cinémascope, et puis on se retrouve probablement le 9 mai, si c'est toi qui... peut-être le 9 mai, un de ces quatre. Merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. Ciao à tous.
Ciao, ciao.
Voilà. Au Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra.